Europe 1, 23h, 1h, la libre antenne. Sabine Marin.
Bonsoir à tous, bienvenue sur cette libre antenne du dimanche soir. Nous terminons de nouveau la semaine ensemble avec 2 heures de confidence et de partage. 2 heures durant lesquelles nous sommes là les uns pour les autres. Ces autres avec qui les choses sont parfois si difficiles. Quand les premières expériences affectives et relationnelles se sont mal passées, quand on a vécu une relation traumatisante, on peut avoir ce mouvement de recul et fuir les autres pour ne pas souffrir davantage. On a l'impression de ne plus savoir s'y prendre, de ne plus avoir les codes, alors on évite les contacts, les engagements, on se replie sur soi. Nous avons tous aussi dû apprendre à nous détacher de nos parents, à faire face à des amours qui s'arrêtent, à des proches qui disparaissent, à des rêves qui s'envolent. Et choisi ou subi, aucune de ces séparations ne s'est faite sans douleur. Pourtant, la vie est un mouvement perpétuel. Et vivre, c'est accepter de n'être plus ce que l'on a été, et donc accepter aussi que les autres ne soient plus ce qu'ils ont été. Pour ça, il est important de soigner ses blessures, de travailler sur un passé trop présent, de relativiser l'importance exagérée accordée aux autres pour nous recentrer sur nous-mêmes et au final de pouvoir choisir de nous lier si ces liens sont épanouissants et de nous détacher lorsqu'ils ne le sont plus. Des autres et de vous, parlons-en ce soir sur cette libre antenne. Hassan et Oscar attendent vos appels au 3921 dès maintenant et jusqu'à 1h du matin. Et pour participer à l'émission par SMS, je vous rappelle que vous faites le 739-21 en commençant par le mot « nuit ». Dernière information essentielle, car sans lui, nous serions peu de choses, surtout moi, c'est Fabrice Fougerose qui réalise l'émission ce soir.
23h, 1h, la libre antenne d'Europe 1, Sabine Marin.
Et mon premier appel ce soir, c'est celui de Michel Raphaël. Bonsoir à vous.
Oui, bonsoir.
Soyez le bienvenu. Bonsoir. Soyez le bienvenu, Michel.
Merci. Oui.
De quoi est-ce que vous aviez envie de me parler ce soir?
Excusez-moi, parce que je suis très ému.
Prenez le temps.
Parce que ça fait très longtemps que je voulais participer à la libre antenne. Oui. J'ai fait plusieurs essais et à chaque fois, j'ai échoué. Et une fois, c'était en arrivant sur l'antenne avec une personne qui s'appelle Caroline Dublanche et je me suis effondré.
C'était il y a quelques années avec Caroline alors?
Oui, c'était il y a quelques années. D'accord. Et puis ensuite, j'ai retéléphoné. Mais autant il y a des personnes au standard qui sont d'un accueil super. Oui. Là, je suis tombé sur un monsieur qui m'a dit « Je ne veux plus vous entendre ».
Quand est-ce que c'est arrivé, ça?
Ah, je ne sais pas, il y a plusieurs années, vous savez.
Ah, il y a plusieurs années, d'accord. Donc, ce n'est pas mon équipe, là, que vous remettez en question?
Mais non, pas du tout.
Parce qu'Hassan et Oscar, ils sont plutôt très gentils, normalement. Sinon j'aurais sévi, mais là, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas eux dont
non,
vous parlez.
Non. Mais c'est pour vous dire que je suis resté sur quelque chose de très négatif. Je ne vous dirai pas le prénom du monsieur qui m'a dit qu'il ne voulait plus m'entendre. Mais c'était vraiment il y a quelques années. C'est pour vous dire à quel point j'ai été bloqué.
Alors Michel, voilà. Je vous demande pardon au nom de ce garçon. Je ne sais pas qui c'est, mais je vous demande pardon pour lui, je suis désolée. Et moi ce soir, j'aimerais vous prendre par la main avec beaucoup de douceur et vous faire une petite place à côté de moi pour qu'on puisse se parler, d'accord?
Oui, oui, merci. Alors, j'ai envie de... Oui, alors, je m'appelle Michel Raphaël. Je suis juste un homme ordinaire. Et j'ai 74 ans.
Oui.
Je suis veuf depuis 7 ans et demi, depuis le 30 mai 2012. Et il y a deux choses là qui sont dans mon esprit et qui reviennent sans arrêt. Et j'ai envie de vous les dire.
Oui.
Alors, la première, c'est que la... Pardon, je vais essayer d'être assez bref, mais suffisamment explicatif, cependant, pour votre compréhension et celle des personnes qui nous écoutent.
C'est gentil.
Alors, c'était la veille de son décès, Jacqueline, c'était ma Jacotte chérie. Nous avons vécu 45 ans ensemble. Nous avons eu 5 enfants, 2 filles et 3 garçons. Et la veille de son décès, ça se passait dans un institut de cancérologie très, très réputé d'une ville proche de la nôtre.
Oui.
Et cet après-midi-là, eh bien, nous sommes trouvés tous les deux seuls. Alors que souvent, il y avait des visites, par exemple, celles de nos enfants qui s'étaient organisées pour venir régulièrement, chacun à leur tour, pour accompagner leur maman.
Mais là, non, là, c'était un moment pour vous deux, là.
C'était un moment pour nous deux. Et c'était le dernier moment.
Est-ce que vous saviez, est-ce que vous aviez une prémonition ou pas du tout ?
Non.
Non.
Non, non, pas du tout. Pas du tout. J'avais une confiance aveugle dans l'équipe médicale qui s'occupait d'elle, qui était formidable. Et moi, je n'avais jamais envisagé que ma Jacotte, elle allait mourir.
Oui. C'est un cancer de quoi qu'elle a eu ?
Eh bien, ça, j'habite dans une petite ville avec les moyens médicaux qui sont inhérents aux petites villes. Et elle, ça a démarré par un cancer du côlon, mais qui a été diagnostiqué tellement, tellement tard que déjà il y avait des métastases, et le foie, l'estomac. Bon, c'est... Et donc l'équipe médicale ensuite de la grande ville dans l'institut de cancérologie qui l'a prise en charge n'a jamais pu arriver à avoir une longueur d'avance sur la maladie. Alors, je veux revenir là sur cet après-midi. Nous étions tous les deux. Et elle me dit, à un moment, on discutait de choses et d'autres. Et elle me dit, tu sais, je ne sais pas si tu te rappelles, mais je t'avais demandé d'écrire un livre. Alors là, je suis tombé des nues. Je ne comprenais pas de quoi elle parlait. Elle me dit, mais si, rappelle-toi, je t'ai dit plusieurs fois dans notre vie que tu me disais de tellement belles choses sur la vie, sur l'amour, que tu devrais écrire un livre. Alors oui, je m'en suis rappelé.
Oui.
Mais à chaque fois, j'ai répondu avec un grand éclat de rire que les rayons des bibliothèques et des librairies étaient remplis de bouquins de gens qui se prenaient pour des écrivains et que je ne voulais pas faire la même chose. Voilà. Et là, elle me dit, tu sais, je ne voulais pas que tu écrives un livre pour te faire éditer, pour te faire connaître, parce que moi, je m'en foutais, je savais combien tu t'en foutais aussi. Je voulais que ce livre, tu l'écrives juste pour moi.
Oui.
Et là, c'était la fin de l'après-midi, c'était 17h. Elle me dit, il faut que tu repartes, il faut pas que tu rates ton train. Ah, alors, je l'ai embrassée tendrement et je lui ai dit, je te promets ce livre, je vais te l'écrire.
Oui.
Et le livre en question, ben, je suis en train de l'écrire.
C'est ce que j'allais vous demander, ça a pris un sens d'un seul coup, évidemment. Ça a pris sens pour vous, cette histoire de livre, ce jour-là.
Ah oui.
Bien sûr.
Oui. Oui.
Est-ce que vous avez commencé à l'écrire combien de temps après son départ?
2 ans. J'ai eu besoin de réflexion.
Bien sûr.
Et mon écriture, elle est... Je ne suis pas un écrivain. Mon écriture, elle est, comment dire... Elle est intermittente. Je m'y mets, je laisse un peu passer du temps. Et puis je m'y remets. Mais chaque fois que je m'y remets, dans un moment de grand amour avec elle, d'une intimité comme si elle était encore présente.
C'est ce que j'allais vous dire, c'est comme un rendez-vous secret avec elle.
Oui, c'est un rendez-vous.
Et peut-être que de là où elle vient vous tenir la main quand vous écrivez.
Oui. Parce que oui, c'est ce livre, je ressens ça, qu'on l'écrit à deux.
Mm-hmm. Est-ce que ça vous fait du bien à chaque fois d'être plongé dans cet espace-là d'écriture, de rencontre, de souvenir?
Oui, quand je ressens que ça ne me fait pas du bien, que j'ai trop de tristesse, de mélancolie, eh bien, je m'en éloigne. Je préfère... me remettre à l'écriture en pensant à elle avec son si beau sourire et sa joie et qu'elle me communique encore maintenant quand j'écris.
Michel, est-ce que ce livre a un titre?
Oui.
Est-ce que vous voulez bien le partager avec moi?
Oui. Oui.
Comment il s'appelle ce livre?
J'aurais voulu encore te dire.
Ah, c'est magnifique. Mais c'est exactement ce que vous êtes en train de faire, lui dire, lui parler. Vous continuez ce dialogue, finalement, d'une autre manière.
Oui.
L'amour est toujours là, le dialogue a simplement changé de dimension.
Oui. Voilà, je vous ai dit le premier point.
Mm-hmm.
Le second... Alors donc, il y a eu la fin de cet après-midi, je suis parti, je lui ai dit, je vais te l'écrire, ce livre, je te le promets. Et dans la nuit, on m'a téléphoné que son état s'était aggravé. Et quand je suis arrivé à la clinique le lendemain matin, vers 5-6 heures, je ne l'ai plus vue consciente. Et donc, mes derniers mots, ça a été « Je vais te l'écrire, je te le promets. » Et dans la journée, donc, il a fallu réunir les enfants parce que l'interne de la clinique m'a dit qu'il n'y avait plus aucune espérance. Donc, je tombais des nues parce que pour moi, il était impossible que ma jacotte, elle s'en aille comme ça. Et donc, il a fallu rameuter les enfants. Et il y en avait un qui habitait en Allemagne. Ça n'a pas été simple. Mais il est arrivé le soir à 19h. Et on était autour d'elle. Nos cinq enfants et moi. C'était un peu comme si elle avait attendu qu'ils soient tous là pour s'en aller.
Oui.
Alors, il y a ça. Bon. Et l'autre point dont je voulais vous entretenir, c'est que je suis très, très malheureux en ce moment parce que j'aurais envie d'une nouvelle relation. Parce que je crois que j'ai encore beaucoup d'amour et de tendresse à donner, mais j'ai une culpabilité, la peur de la tromper. Parce que la mort n'a rompu, pour moi, la mort n'a rompu aucun lien avec elle. Et je suis très désemparé, très, très malheureux à ce propos.
Je comprends tout à fait, Michel. Je pense que le lien qui existe avec quelqu'un qui est décédé n'a plus rien à voir avec un lien terrestre. Et que de là où elle est, elle veut sûrement vous voir heureux.
Oui.
Et si vous êtes heureux avec quelqu'un, une autre femme, elle sera très heureuse aussi pour vous. Il n'y a plus de culpabilité dans cette dimension-là.
Mais ça, j'arrive pas à comprendre.
C'est un amour pur et éternel qui est entre vous deux, entre Jacqueline et vous. Mais aujourd'hui, elle n'est plus de ce monde-là, en tout cas.
Oui, vous avez les mots qu'il faut, oui.
Et vous y êtes encore, dans ce monde-là.
Oui, ça n'empêche pas que je suis tombé amoureux il y a 5 ans. Donc, assez proche du décès, c'est-à-dire 2 ans après, je suis tombé amoureux. Je ne savais pas ce qui m'arrivait parce que ça a été un coup de foudre.
Comme quoi tout est possible dans la vie, vous voyez.
J'ai eu un coup de foudre pour une femme, mais j'étais catastrophé. Pourquoi ? Parce que la connaissance que j'ai faite avec ma Jacotte, ça a été très lent, ça a été très progressif, ça a été, il n'y a pas eu de coup de foudre, jamais.
Mmh. Oui, vous savez, Michel, chaque histoire est différente.
Et puis là, il me tombe ça sur la figure, mais je me suis dit, mais qu'est-ce qui t'arrive ?
Vous avez été un peu dépassé par vos émotions ?
Oui, complètement dépassé, oui.
Avec, j'imagine, ce fond de culpabilité aussi ? Est-ce que j'ai le droit d'être amoureux ? Est-ce que j'ai le droit d'être heureux ?
Oui. Je me le dis toujours, je me le demande toujours. Est-ce que j'ai encore le droit à autre chose, à une nouvelle histoire ? Je ne sais pas.
Et pourquoi vous n'auriez pas droit à ça ?
Je ne sais pas.
Il n'y a que vous qui pouvez vous donner cette autorisation-là. Que vous. Ça n'enlèvera rien à l'amour que vous gardez pour votre femme. Une fois de plus, on n'est pas dans la même dimension. Il n'y a rien de comparable.
Oui, je comprends.
Et si vous restez dans cette culpabilité-là, dans ce questionnement-là, vous n'allez plus être heureux. Et moi, je pense que votre femme, ce qu'elle aimerait, c'est vous voir heureux.
Ben oui. À la fois, j'entends ce que vous dites, mais il faut que je l'intègre, que je l'accepte. Je n'y arrive pas.
Cette histoire, c'était il y a combien de temps, du coup ? C'était il y a 5 ans ?
Oui.
Vous n'avez pas donné suite, alors, si je comprends bien ?
Non, c'est elle. Non, c'est elle qui m'a... cette personne a compris ma douleur, ma détresse, et elle n'a pas voulu... elle a ressenti qu'elle... qu'elle était un pansement sur ma douleur.
Qu'il n'y aurait pas de place pour elle, en fait.
Peut-être.
Mais en même temps, c'était il y a 5 ans, Michel. 5 ans, oui. Après, peut-être que vous êtes davantage prêt maintenant.
Oui, mais Sabine, j'ai 74 ans. Je suis au crépuscule de mes jours.
Oui.
Vous comprenez ?
Et donc, chaque jour est important ?
Et donc, oui, chaque jour.
Et donc, chaque moment de bonheur qu'on peut vivre est important. Je pense
oui,
que
Michel.
Notre mission la plus importante sur cette terre, c'est d'arriver à être heureux. Parce que quand on est heureux, on rend les autres heureux.
Oui, et peut-être qu'il faut voir ça à l'inverse de ce que vous dites. C'est-à-dire que rendre les autres heureux d'abord. Non ?
Ah, je ne suis pas tout à fait sûre. Si on ne l'est pas soi-même, c'est compliqué de donner du bonheur aux autres. Et justement, parce que, comme vous dites, chaque minute compte, chaque journée est importante. Je pense que c'est important de vous autoriser à être heureux, au moins à voler des petits moments de bonheur avec quelqu'un.
Mais oui, mais il n'y a personne.
Mais je pense qu'il n'y a personne parce que vous étiez fermé à ça. Vous savez, inconsciemment, quand on n'est pas prêt, quand on n'est pas ouvert aux autres, on rencontre personne. Vous ne vous autorisiez pas à ça. Si maintenant vous commencez à vous dire, pourquoi pas, à vous ouvrir un petit peu, à sortir, vous ferez des rencontres. Et puis même si ce n'est pas un coup de foudre, quelqu'un avec qui il y aurait une amitié amoureuse, une relation de complicité.
Oui.
Hein ? Pour avancer sur cette dernière partie de votre vie, main dans la main avec quelqu'un.
Oh, j'aimerais tellement.
Ben oui. Et ça n'enlèverait rien à votre belle histoire avec votre femme, c'est autre chose.
Comme je vous ai dit, je crois que j'ai beaucoup d'amour à donner et de tendresse. Mais et je crois aussi que quelquefois, quand il m'arrive d'être un peu plus optimiste, je me dis peut-être que je suis en marche vers cette personne que je ne connais pas encore, à qui je pourrais donner tout ce trop-plein d'amour que j'ai encore à donner, et que cette personne qui vient vers moi, sans savoir qui je suis, elle pourra aussi me donner tout son amour, son trop-plein d'amour peut-être.
J'en suis persuadée, Michel, et je pense que le fait que vous m'appeliez ce soir pour en parler, ça veut déjà dire qu'il y a un chemin qui a été fait dans votre esprit. Comme vous dites, vous êtes en route, en chemin vers ça, maintenant.
Oui, je suis en chemin, mais avec une espérance tellement minime que... Bon.
Écoutez, dans quelle région êtes-vous ?
J'habite en Dordogne.
D'accord. Si jamais on a des auditrices qui sont touchées par votre témoignage ce soir, est-ce qu'on peut se permettre de vous donner leurs coordonnées ?
Absolument, oui.
Hein ?
Oui,
absolument. Je suis persuadée que ça va être le cas parce que vous êtes quelqu'un de profondément humain et touchant.
Vous savez, ma victoire de ce soir, c'est d'avoir vaincu... d'être sorti de la spirale de l'échec par rapport à la libre antenne qui dure depuis tant de temps à cause de moi, parce que j'ai jamais été capable d'accéder.
Je suis ravie ce soir, Michel, d'avoir pu vous ouvrir cette porte-là.
Je suis très heureux de votre parole, Sabine. Vous me faites très chaud au cœur, très chaud.
Michel, je vous serre dans mes bras. Je vous souhaite plein de belles choses. La plus belle chose sur Terre, c'est d'être heureux. Alors soyez heureux, sans aucune culpabilité. L'amour,
merci.
L'amour est un beau cadeau, quel que soit le contexte.
Merci. Hein ? Merci, Sabine.
Et je vous promets que s'il y a des appels pour vous, on vous les transmettra ce soir ou dans les jours qui viennent, d'accord ?
Merci beaucoup.
Je vous embrasse très fort, Michel.
Merci.
Au revoir.
Moi aussi, je vous embrasse, Sabine.
Et c'est maintenant Suzanne que j'accueille avec grand plaisir. Bonsoir Suzanne.
Bonsoir.
Soyez la bienvenue sur cette libre antenne.
Oui.
De quoi est-ce que vous voulez me parler ce soir ?
Eh bien, je voulais vous parler de, bah, comme je l'ai dit à votre, je ne sais plus qui m'a accueilli à l'accueil, qui était très sympathique d'ailleurs.
Oscar. C'est que,
oui, Oscar, voilà. Et donc j'ai été très, j'ai eu un choc, Bon, voilà, j'aime beaucoup les animaux. Et donc je parrainais un petit chat dans un refuge, qui était dans un refuge pas loin de chez moi. Mmh. Et donc vendredi, avec mon mari, nous sommes allés donner des croquettes et de la litière pour les chats, enfin pour les animaux. Et là, j'ai appris, parce que la personne qui m'a reçue, je lui ai dit, mais je parraine un chat depuis le mois de décembre 2018. Je n'ai jamais eu de nouvelles. Je ne sais pas s'il va bien, s'il s'est bien rétabli, parce que je sais qu'il était très malade. Et puis, elle me dit, ah ben, Oki, enfin, c'est le nom du chat, Oki est mort en début d'année 2019. Bon. Mmh. Et donc, ça m'a un petit peu interloqué. Je lui ai dit, mais attendez, j'avais donné mon adresse courriel, enfin, pour avoir des nouvelles régulièrement de ce petit chat, et voilà, quoi, enfin. Et puis, j'ai dit, par contre, les virements que je fais tous les mois, ils ont bien été encaissés. Bon, je ne regrette rien, hein, mais.
C'est ce que j'allais vous demander. Ça consiste en quoi exactement ce parrainage, au départ? Le deal, c'est quoi?
Alors, le deal, c'est que. Mon fils, au départ, c'est que mon fils était bénévole dans cette association. Bon, après, il travaillait trop tard pour pouvoir continuer à être bénévole. Et donc, il m'avait dit, tiens, viens donc avec moi. Comme il sait que j'aime, on a un chat nous-mêmes, hein, il sait que j'aime beaucoup les animaux. Et donc, je suis allée avec lui. Et puis, on m'a dit, oui, vous pouvez parrainer un chat. Et puis, c'est vrai que ce petit chat, Oki, qui était un petit chat qui a bossé par la vie, qui était plein de griffes, un petit chat blanc qui était adorable, très très affectueux. Puis j'ai dit, je vais parrainer ce chat. Donc je donne, ils m'ont donné un RIB, etc. Je suis allée à la banque et j'ai fait un parrainage de 20 € par mois.
Alors, est-ce que je ne connais pas le fonctionnement, est-ce qu'on vous demande un montant précis ou est-ce que c'est vous qui choisissez?
Ah non, c'est à partir de 10 € et on donne ce qu'on veut.
D'accord, donc vous avez choisi de mettre en place un virement de 20 € tous les mois.
Oui, voilà.
Ouais. Qu'est-ce qu'on était supposé vous donner ou vous dire en échange?
M'envoyer des nouvelles par mon adresse courriel,
oui.
M'envoyer des photos, me donner des nouvelles de ce petit chat qui était déjà malade à l'époque, pour me dire s'il allait mieux et comment il se portait, etc. Parce que on m'a proposé de l'adopter, bien sûr, mais comme on a déjà un chat croisé siamois, ça va, quoi.
Oui.
C'est un chat qui est adorable, mais il ne supporterait pas une cohabitation.
C'est ça, le siamois n'est pas réputé pour être très très sociable avec les autres.
Voilà, mais avec nous, il est adorable.
Oui, bien sûr. Et donc, est-ce qu'au moins au début, vous avez eu des retours?
Mais non, j'ai jamais eu de
nouvelles.
Dès le
début, rien du tout.
Mais non.
Ouais, c'est pas très normal quand même.
Non, mais c'est pour ça. Quand on est allé vendredi, moi, ça m'a fait mal au cœur parce que ce petit chat, je l'avais vu, il était mignon comme tout. Mon fils, il me disait, quand je vais nourrir les chats, il me saute sur les genoux, il se fait caresser, il est adorable, quoi. Donc j'ai eu envie de parrainer ce petit chat qui avait été abandonné, qui s'est pris pas mal de coups dans la rue, et voilà quoi, voilà, c'était un cabossé de la vie comme on dit, ouais. Et ce petit chat il m'avait ému, quoi, puis voilà.
Qu'est-ce qu'ils vous ont donné comme explication?
La responsable que j'ai vue vendredi, elle m'a dit, c'est pas normal, je vais le signaler, mais voilà quoi.
Ouais, on est bien d'accord, c'est d'autant pas normal que c'est tellement rare des gens qui donnent, qui font un geste comme vous,
oui.
Que la moindre des choses c'est quand même de faire un peu attention à ça, quoi.
Eh ben oui,
c'est un engagement réciproque.
Hein. Eh ben oui, parce que moi je lui ai dit, écoutez, je vais aller à la banque, je vais arrêter les virements. Elle me dit, non, parce que ça sert pour d'autres animaux. Je lui ai dit, oui, mais bon.
Oui. Et il est évidemment normal qu'il y ait un échange, même si vous ne le faites pas pour vous, mais pour les chats. La moindre des choses, c'est d'avoir des nouvelles, quand même, évidemment.
Eh ben oui, parce qu'on m'avait dit, on vous enverra des photos pour vous donner des nouvelles, comment il va, parce que c'est vrai que c'est un chat qui était très malade. Là, il a été euthanasié parce qu'il avait des tumeurs au cerveau et tout. Mais c'est vrai que ce chat, je ne l'avais pas vu beaucoup, mais d'un autre côté, j'ai dit à mon fils, heureusement que je n'ai pas eu trop de photos, parce que c'est vrai que j'ai eu des larmes aux yeux, j'ai pleuré quand j'ai su qu'il était mort. Bon. Voilà, parce que ça m'a fait mal au cœur.
Quand on les aime, on s'y attache vite.
Il avait 11 ans, donc pour un chat, c'est vieux, mais voilà. Quoi.
11 ans et malade, oui, je pense que pour lui, il valait mieux que ça se termine quand même. Mais là n'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'il y a eu un dysfonctionnement. La responsable l'a reconnu.
Ah oui, totalement, oui.
Et c'est vrai que c'est tellement déjà difficile d'avoir des bénévoles et d'avoir des gens qui parrainent que si on ne fait pas un minimum d'efforts pour les fidéliser, ça c'est pas correct, quoi.
Mais non, en plus c'est un petit refuge et les petits refuges sont en menace de fermer en fait parce qu'il y en a pas tant que ça et puis ils ont beaucoup de ces petits refuges vivent des dons, en fait.
Bien sûr.
Alors, s'ils assurent pas, c'est pas dur d'envoyer un petit message, je pense, hein, voilà. Quoi.
Non, mais d'après ce que je comprends là, Suzanne, c'était pas volontaire. C'était, il y a une personne qui a dû.
Ah, mais non. C'est ça. C'est un dysfonctionnement. Hein.
Voilà, c'est que je pense que la responsable, je sais que ces gens-là sont submergés de travail et de situations dramatiques.
Ah oui, tout à fait, ouais.
Et je pense qu'il y a une personne qui n'a pas fait ce qu'elle aurait dû faire, ce qui est regrettable.
Voilà.
Mais il faut pas stigmatiser toute l'association non plus pour
ah,
ça.
Ah, non, pas du tout. Non, mais on continue à leur apporter des croquettes et de la litière. Ça, c'est pas un problème. C'est des gens qui aiment les animaux, ça c'est clair, hein, c'est sûr.
Je crois que c'est ça qui.
Ce petit chat, en plus, ce petit chat, comme il était vraiment malade, la responsable du refuge l'avait pris chez elle pour le soigner.
En plus, donc c'est quelqu'un de bien.
Donc c'est pas volontaire. Bon, je vais continuer à faire ce don parce que voilà.
Je pense aussi. Je crois que c'était
sur le coup de la colère, je me suis dit bon.
Je comprends.
Ce pauvre petit Oki, il est mort alors que moi j'ai un chat à la maison qui est en pleine santé. Un chaton qui est né avant terme, etc. Enfin, il a eu plein de problèmes, mon petit chat à la naissance. Donc, voilà.
Mais Oki, il était vieux et malade, vous le savez vous-même.
Mais oui.
On va avoir une tendre pensée pour lui au paradis des chats maintenant.
Ben, c'est ce que j'ai dit à la responsable.
Et puis je pense qu'il y a d'autres chatons abandonnés qui seront bien contents d'avoir un soutien grâce à vous.
Oui, voilà. Je pense. Oui.
Est-ce qu'on peut donner le nom de l'association? Peut-être si des gens ont envie aussi de parrainer un chat, pourquoi pas? Si on peut donner un petit coup de patte ce soir.
Oui, tout à fait. C'est des animaux et des hommes.
Oui.
Et c'est à Bouguenay, 44 340 Bouguenay. C'est à côté de chez moi, dans la région nantaise.
Donc, des animaux et des hommes dans la région nantaise, je pense qu'il y a un site internet.
Ah oui, tout à fait. Ah oui. Ouais. Ah oui, mais je ne l'ai pas souvenu, là.
Non, c'est pas grave. Je pense que les gens trouveront facilement. Et oui, peut-être que grâce à votre appel ce soir, il y aura une petite chaîne de solidarité pour tous ces chats-là qui ont besoin d'aide.
Bah oui, bah, y a des chats et des chiens.
Et des chiens aussi,
et autres animaux. Oui, il y a des chiens aussi,
Okay.
Parce que mon fils, au début, quand il était bénévole, il n'avait pas l'habitude des chiens. Et bon, il aime tous les animaux, bien sûr. Et il n'était pas à l'aise du tout avec les chiens. Et puis, on l'a formé pour s'occuper des chiens, justement, aussi, en plus.
Bon, d'après ce que j'entends, c'est quand même des gens très, très bien qui sont de ce côté-là.
Ah oui, c'est des gens bien. Ouais. Mais là, ce que m'a dit la responsable que j'ai vue vendredi, quand on a amené la litière et puis les croquettes, elle m'a dit, c'est un dysfonctionnement. Je suis vraiment désolée, je vais le signaler. Mais bon, voilà.
Mais je comprends, c'est un coup de colère et de tristesse. Mais maintenant, ça s'est passé.
Oh bah oui, parce que ce pauvre petit chat blanc était tellement mignon. Enfin bon, voilà. C'est vrai qu'il était bien malade, mais on espère toujours.
Oui, je sais bien, malheureusement. Il y en a d'autres derrière qui ont besoin de votre aide encore.
Mais je sais bien. Il y a des gens, vous savez qu'il y a des gens, vous savez ce qu'ils font? Ils font comme chez Jacques Dutronc en Corse. Ils balancent les chatons par-dessus la palissade. Ouais.
Et ouais,
c'est lamentable.
Je ne sais pas si vous étiez à l'écoute il y a quelques mois, j'avais fait une émission spéciale sur les animaux.
Mais si, j'avais téléphoné, mais malheureusement, je ne suis pas passée à l'antenne parce qu'il y avait trop d'appels.
On avait été submergés d'appels et je me souviens que j'avais dit en introduction que je souhaite du fond du cœur que tous les gens qui font ça, que la vie un jour les traite de la même manière.
Ah oui. Ouais. Ah oui, parce que c'est lamentable.
On est bien d'accord, Suzanne. En tout cas, heureusement qu'il y a encore des gens comme vous pour aider. Merci pour eux.
Ouais.
Redonnez encore une fois le nom de l'association, s'il vous plaît.
Alors, c'est des animaux et des hommes, et c'est à Bouguenay, Bouguenais.
Super.
Dans le 44 en Loire-Atlantique.
Bon, merci beaucoup, le message est passé. Merci de votre appel, Suzanne.
De rien.
Je vous embrasse.
Moi aussi, au revoir.
Au revoir.
Venez vous confier à Sabine Marin sur Europe 1.
Comme ça. ça. Comme des cons devant le café Norbara. Comme dans une série B, on est tous les deux mauvais. On s'est moqué tellement de fois des gens qui faisaient ça. Mais je trouve pas de refrain à notre histoire. Tous les mots qui me viennent sont dérisoires. Je sais bien que je l'ai trop dit, mais je te le dis quand même. Je t'aime. Je voulais quand même te dire merci pour tout le mal qu'on s'est pas dit. Certains rigolent déjà, je m'en fous, je les aimais pas. On avait l'air trop bien, y en a qui supportent pas. Mais je trouve pas de refrain à notre histoire. Tous les mots qui me viennent sont dérisoires. Je sais bien que je te l'ai trop dit, je te le dis quand même. C'est bien que je l'ai trop dit, mais je le dis quand même. Je t'aime. Je t'aime.
Je te le dis quand même, c'était Patrick Bruel.
23h, 1h, la libre antenne d'Europe 1, Sabine Marin.
Et je voulais vous dire que suite à l'appel de Michel Raphaël, nous avons plein de SMS et de coups de fil de femmes qui souhaitent entrer en contact avec lui. On lui souhaite donc évidemment le meilleur et beaucoup de bonheur maintenant. Et puis suite au coup de téléphone de Suzanne juste avant sur les associations, beaucoup de réactions aussi. Tout à l'heure, quand on le pourra, nous passerons Catherine. Peut-être d'autres personnes aussi qui souhaitent réagir sur tout ce qui concerne les adoptions. Et les associations sur les animaux, voilà, c'est dit. En attendant, c'est Fabien que j'accueille avec plaisir. Bonsoir Fabien.
Bonsoir Sabine.
Soyez le bienvenu.
Merci.
On n'a pas réussi à se parler hier soir, si je me souviens bien.
Oui, c'est ça, exact.
Et donc, on vous avait réservé, on garde les meilleurs pour la fin, c'est pour ça.
Oui, merci.
Alors, je vous écoute.
Donc, j'ai rencontré un mec sur un site de rencontre.
Mm-hmm.
Et donc, il m'a précisé qu'il voulait du sérieux. J'étais super content. Puis on fait échanger les snaps. On a discuté pendant 2 semaines. Et puis j'ai proposé de se voir.
Mm-hmm.
Donc il m'a demandé pourquoi, je lui ai dit pour se voir. Il m'a dit que s'il y avait du sexe, pourquoi pas, mais c'était pas son but. Donc on s'est vu. Et puis on a dérapé. Et après on s'est réécrit. Quand je suis parti, il m'a dit... sur message, il m'a dit que en fait, j'étais pas comme plan pour lui, il voulait plus apprendre à me connaître, que je lui plaisais beaucoup. Et ouais, une semaine après, il m'a dit que il souhaitait arrêter là parce qu'on est allé trop vite. Il arrive pas à passer au-dessus, il pense à ce qu'on a fait et c'était pas ce qu'il voulait en fait.
Ça m'a l'air bien compliqué tout ça.
Oui.
Quand on cherche à rencontrer quelqu'un sur un site, on se doute bien qu'à un moment donné, il y aura une relation plus profonde, plus intime, non ?
C'est clair.
15 jours en plus, ça me paraît un délai correct. Vous n'êtes pas sauté dessus le premier soir quand même.
Oui.
Quel âge avez-vous, Fabien ?
30.
Et lui ?
23.
Un peu plus jeune. Ouais. Vous y croyez à cet argument-là, cette raison-là ?
pas trop, c'est mitigé en fait.
Quand vous dites on a dérapé, c'est-à-dire qu'est-ce qui a un peu forcé le truc?
Pas forcé, mais on s'est embrassé. Mm-hmm. Il a bien aimé. Après, moi, c'est moi qui a commencé à lui enlever le t-shirt, un peu commencé. Et après, lui, il a quand même fait des choses aussi. Donc.
C'est ça, vous étiez deux adultes consentants jusqu'à nouvel ordre.
C'est ça. Et donc, il m'a dit, c'est pas comme il imaginait en fait.
Est-ce que vous étiez sa première relation?
Il m'a dit qu'il a eu deux relations.
Bon, bah donc il n'est pas complètement tombé du ciel.
Hein. C'est clair.
Et quand bien même, il me semble, quand bien même il aurait trouvé ça trop rapide, bah, rien ne l'empêche de vous dire, écoute, voilà, on a peut-être dérapé comme vous dites, mais maintenant on prend notre temps. Il me semble que s'il était sincère, c'est peut-être ce qu'il vous dirait, non?
Oui, c'est clair, c'est ce que je pense, mais j'ai lui dit qu'on peut recommencer à zéro et après... Ouais, il m'a pas répondu, il m'a dit que je m'arrête pas à lui. Mais après, il m'a dit que c'est pas fermé quand même. Mais pour le moment, c'est pas.
Oui, c'est pas trop,
c'est trop compliqué pour lui.
Recommencer à zéro, non, on peut pas effacer ce qui a existé. Mais oui, simplement reprendre des bonnes distances qui vous conviennent à tous les deux. Vous savez, une fois de plus, chaque couple, qu'il soit hétéro ou homo, fonctionne d'une manière différente. Ce qui est important, c'est de se parler, de se dire quelles sont nos limites à chacun. Voilà ce que moi j'accepte ou je n'accepte pas. Qu'est-ce qui est OK pour toi, qu'est-ce qui ne l'est pas? Il faut simplement se parler, mais là, je sais pas, je trouve ça un petit peu radical comme décision.
C'est clair. Et moi, donc, je sais pas quoi faire, en fait, si je dois vraiment insister ou le laisser.
Ça dépend dans quel état vous êtes. Vous vous sentez comment par rapport à lui?
Mais j'ai très, très envie parce que ouais, il m'a beaucoup plu. J'ai vraiment très envie de m'imaginer déjà en couple. Donc,
Oula! Vous êtes du genre à vous emballer, non?
Généralement, non, mais là, c'est vrai que, en plus, bon, dans notre milieu, c'est difficile de trouver quelqu'un qui veut du sérieux, c'est vraiment très difficile, et lui, il avait, ouais, tout ce que je recherchais, en fait.
Oui, c'est peut-être un petit peu rapide, quand même, vous l'avez rencontré combien de fois? Une fois?
Mais une seule fois.
Mais ouais. Ça faisait longtemps que vous étiez seule?
Mais j'étais en couple très mal, parce que la personne était amoureuse de quelqu'un d'autre. Donc, ouais, ça fait un an et demi. C'est pareil.
Oui, donc vous étiez quand même dans une relation plutôt frustrante.
Oui, c'est ça.
Donc faites attention aussi, quand on est trop dans la frustration, l'histoire qui arrive après, on a un petit peu tendance à l'idéaliser tout de suite.
Oui.
À la prendre comme une sorte de vengeance en disant « ça y est, maintenant c'est moi, ça va être bien, ça va être formidable ».
Voilà, c'est ce que je pense.
Bah ouais, mais vous allez un peu vite, là. Là, pour le coup, je le rejoins. Pas vite dans l'acte. Parce que, après, une fois de plus, quand on est deux adultes consentants, 15 jours, ça me paraît très raisonnable. Mais vite dans les projets. Vite dans votre tête, quoi.
Oui, c'est clair.
Et ça peut faire peur, surtout à un garçon qui est plus jeune que vous.
Oui, c'est clair.
Vous connaissez hein, le dicton qui dit « Fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis ».
Oui, c'est vrai que...
Et plus vous allez tirer de votre côté l'élastique, plus il va tirer du sien, lui.
D'accord. Donc, je devrais faire quoi?
Lâcher prise? Qu'est-ce que vous avez fait là depuis qu'il vous a dit ça? Est-ce que vous avez tenté encore les SMS, les messages, les WhatsApp, tout ça?
Oui, j'ai essayé.
Et pas de réponse?
Je lui ai envoyé, mais justement, il me répond. Aujourd'hui, je lui ai envoyé bonne journée, il m'a répondu merci.
Okay.
Après, je lui ai répondu ce qu'il avait fait aujourd'hui. Il m'a dit et moi. Et après, je lui ai dit que j'étais pas chez moi, mais il m'a dit d'accord. Il m'a pas dit où j'étais, rien.
Pourquoi vous lui dites que vous n'êtes pas chez vous? Quel est le but de ce genre de message?
C'était pour voir s'il réagissait.
Ah ben voilà, c'est ça, c'est bien ce qui me semblait. Parce qu'y aller sur la pointe des pieds en disant de temps en temps « Coucou, bonjour, comment tu vas ?» Je pense, un petit truc, c'est tout. Mais là, vous voyez, il y a un message, il y en a un deuxième, et dès le troisième, vous êtes déjà à nouveau dans une espèce de « Je veux te raccrocher. Je veux voir si t'es jaloux quand je te dis que je suis pas chez moi.
Oui, »
Et il s'est pas laissé prendre au piège, il a pas répondu.
Oui.
Donc, garder un contact sain et léger avec lui, quelque chose qui ne soit pas une prison.
D'accord.
Effectivement, un petit coucou, un truc. Vous savez, il vaut mieux faire envie que pitié. Et quand on s'accroche à quelqu'un, on fait plutôt pitié. Alors que quand on est léger,
ouais,
spirituel et qu'on laisse un petit message de temps en temps, là, c'est plus sympa. Et peut-être qu'au bout d'un moment, il va se dire, bah oui, finalement, il me manque. Et s'il revient, au moins, ça sera quelque chose de sincère.
Oui, c'est vrai que... Parce que moi, et je devrais lui proposer de le revoir... Dans longtemps ou...
Non. Rien du tout.
D'accord.
Vous attendez que ça vienne de lui?
D'accord.
Et peut-être en attendant, demandez-vous aussi pourquoi vous fonctionnez comme ça. Pourquoi est-ce que vous avez ce schéma de fonctionnement qui est que vous vous emballez aussi vite dans votre esprit, dans votre tête, en vous disant je me voyais déjà en couple après une rencontre.
Ouais, c'est vrai.
Il y a peut-être quelque chose que vous essayez de compenser, de réparer aussi comme blessure de votre côté.
Mais ouais, parce qu'en fait, par rapport à ma relation, j'ai tellement souffert, j'étais devenu jaloux maladif. Et donc j'ai gâché un peu ma jeunesse. Et donc j'ai envie de voilà, revivre quelque chose, ressentir que quelqu'un m'aime en fait.
Ça c'est entièrement compréhensible, mais on ne peut pas le provoquer. Cette première histoire dont vous me parlez, c'était le premier pour vous ?
Oui.
Et ça a duré combien de temps ?
Ça a duré 7 ans.
Ouais, donc c'était quelque chose qui a beaucoup compté.
C'est ça.
Ce que je vous propose, Sabien, c'est qu'on fasse une petite pause dans quelques instants.
Oui.
Et on rediscutera juste après les infos, parce que j'aimerais bien quand même comprendre votre schéma de fonctionnement.
D'accord.
Comment vous étiez quand vous étiez un petit garçon, comment vous avez vécu vos premières histoires d'amour, et pourquoi aujourd'hui, effectivement, vous êtes dans une sorte de précipitation, d'emballement, comme ça.
Hein ? D'accord.
Parce que le meilleur moyen de ne pas reproduire ces erreurs, c'est d'avoir compris pourquoi on les a commises.
D'accord.
T'es d'accord avec ça ?
Oui, je suis d'accord, totalement.
Bon, alors ne quittez pas, le temps des infos, je vous récupère juste après.
Très bien, ça marche, merci beaucoup.
À tout de suite.
Europe 1, 23h, 1h, la libre antenne, Sabine Marin.
Cette nuit de dimanche à lundi, vous êtes bien sur la libre antenne d'Europe 1. Nous sommes encore ensemble et en direct jusqu'à 1h du matin. N'hésitez pas à nous rejoindre, vous pouvez continuer à appeler pour prendre la parole jusqu'à la fin de l'émission. Prendre la parole pour parler de vous, de ce qui vous préoccupe ou simplement pour réagir à un témoignage que vous avez entendu et qui vous a touché. Un seul numéro de téléphone à composer, le 3921. Hassan et Oscar vous accueillent au standard d'Europe 1 avec toujours beaucoup de gentillesse et de bienveillance. Je vous rappelle que vous pouvez aussi intervenir par SMS en tapant le 739-21 et en commençant bien par le mot nuit. Vos SMS pour poser une question à quelqu'un qui intervient, pour apporter un soutien, une idée ou pour demander à être mis en relation. Enfin, dernier moyen pour nous joindre, les mails, écrivez-nous à l'adresse suivante, libreantenne@europe1.fr. Et à ce propos, un petit rappel important, si vous souhaitez témoigner, si vous avez envie de prendre la parole, et que pour une raison ou pour une autre, vous ne pouvez pas appeler ce soir, eh bien sachez qu'à tout moment, vous pouvez vous inscrire tout simplement par mail, libreantenne en un seul mot, @europe1.fr, libreantenne@europe1.fr. Vous nous laissez un message en précisant bien que c'est pour la libre antenne du week-end. Vous nous dites de quel sujet vous voulez parler et vous nous laissez votre numéro de téléphone et Hassan et Oscar vous rappelleront à partir de vendredi prochain.
23h, 1h, la libre antenne d'Europe 1, Sabine Marin.
Et je reprends ma conversation avec vous, Fabien, vous êtes là ?
Oui.
Allô ?
Oui.
Vous êtes toujours là, Fabien ?
Oui.
Oui, vous savez, dans n'importe quelle relation, et surtout dans un couple, une fois qu'on s'est énervé ou agacé du comportement de l'autre, c'est toujours intéressant de se demander pourquoi nous, on s'est mis dans une situation comme ça.
D'accord.
Plutôt que de chercher, parce que là, ce que vous cherchez à faire, c'est finalement à refaire un peu le forcing, si je comprends bien.
Oui, en fait, essayer de le reconquérir, entre guillemets, on va dire.
Et à mon avis, avant de le reconquérir, il faut déjà comprendre comment vous fonctionnez.
Oui.
Et comment lui fonctionne. Et vous rendre compte qu'a priori, dès que vous appuyez un peu trop l'accélérateur, lui, il appuie sur le frein.
Ah, d'accord.
Et puis, une fois de plus, vous me dites, 7 ans, c'est une longue relation que vous avez eue avant.
Oui.
Et qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 7 ans-là ?
Mais c'est très compliqué, j'ai beaucoup souffert, en fait. Donc, la première année, tout allait à peu près. Et après, j'ai commencé à être jaloux parce que j'ai vu qu'il y avait des choses avec un ami, à lui. Et voilà, il s'avérait qu'il était amoureux de lui, en fait. J'ai découvert après.
Donc, c'était pas juste une jalousie sans raison. Vous aviez des raisons d'avoir des doutes, c'est ça ?
Oui, je voyais vraiment des petits trucs qui se passaient et que... Moi, je voyais que ça allait pas, donc j'étais devenu jaloux maladif. Et après, quand j'ai décidé qu'il devait plus le voir, que j'évitais qu'il le voie. Mais il a changé avec moi, en fait. Il n'y avait plus de câlin, il n'y avait pas grand-chose. Donc...
Oui, donc,
donc j'ai beaucoup souffert.
Peut-être il a joué sur les deux tableaux pendant longtemps, en fait, c'est ça?
Oui.
Mmh. Et qui a bon, mis
après,
fin
on était tout...
ouais.
Oui. Mais c'est moi qui s'est mis fin parce que ça faisait déjà 3 ans que j'avais envie de le quitter. Mais j'avais même plus de sentiments après, je pense, mais j'arrivais pas en fait à le quitter parce que je me disais si je le quitte, lui il va le retrouver, il va être heureux, moi je vais souffrir tout seul. Donc.
Oui, parce que c'est quand même aussi une souffrance de rester 7 ans avec quelqu'un qui vous traite pas bien.
Ah oui, j'ai beaucoup souffert.
Et pourquoi vous avez accepté ça si longtemps?
Mais parce que j'avais pas envie que... J'aime pas quand on me trahit, quand on me prend pour un con, on va dire. Mmh. Désolé du gros mot. Mais, et donc, je me suis dit, si je le laisse libre, en fait, il va retrouver le mec. Donc,
Oui, mais vous auriez pu penser autrement, en vous disant, je suis pas heureux, et donc je vaux mieux que ça.
Mmh. Bah, des fois, je me disais, oui, il faut que je pense à ma vie, mais c'était dur.
Mais c'est surtout, j'ai l'impression, est-ce que vous avez de l'estime pour vous? Est-ce que vous considérez que vous êtes quelqu'un qui a de la valeur?
Maintenant, je ne sais plus trop. Avant, oui, maintenant, je ne sais plus trop.
Avant quoi?
Avant lui. J'avais confiance en moi, j'étais...
Ouais.
Et là, j'ai perdu totalement confiance en moi. Et
c'est peut-être pour ça qu'avant de vous lancer à corps et à cœur perdu dans une autre histoire qui pourrait ressembler à un pansement, il faut peut-être d'abord travailler là-dessus.
D'accord.
Redorer un peu votre propre blason et avoir suffisamment d'estime pour vous, pour vous dire, voilà, je mérite vraiment quelqu'un de bien. Et c'est pas moi encore qui vais courir derrière quelqu'un.
D'accord.
C'est comme si après la première histoire, finalement, vous alliez répéter quelque chose, là. On me repousse, c'est comme s'il y avait une blessure de rejet. On me repousse, je reviens, j'insiste, je pars pas. On me ferme la porte, je rentre par la fenêtre. J'ai besoin de ça. C'est pas bon d'être dans le besoin dans une relation, il faut être dans l'envie.
D'accord.
Quand on est dans l'envie avec quelqu'un, alors c'est plutôt du bonheur. Quand on est dans le besoin, alors on devient dépendant. Et vous l'avez vécu pendant des années, vous n'étiez pas heureux en étant dépendant comme ça.
C'est clair. Et là, j'ai beaucoup de regrets en ce moment parce que je me dis j'ai gâché un peu ma jeunesse en fait.
Bon, vous me parlez un peu comme si vous aviez déjà 70 ans. C'est pas le cas, il y a encore de belles années.
Oui,
bah, oui là
c'est
aussi.
Clair, mais même physiquement, j'ai changé quand même aussi.
Oui, ça vous a abîmé probablement, mais en même temps, chaque expérience nous apprend des choses sur nous et nous fait grandir. Vous n'auriez pas vécu ces années-là dans une bulle, de toute façon, dans du coton.
Oui, c'est clair.
Donc, toutes les expériences qu'on vit, et surtout celles qui sont difficiles, nous permettent aussi de comprendre des choses et d'avancer. C'est aussi comme ça qu'il faut le dire. Vous êtes... Celui que vous êtes aujourd'hui, il a aussi des forces, des qualités, un potentiel qu'il n'y avait peut-être pas à l'époque.
Oui, c'est clair.
C'est aussi de ce côté-là qu'il faut mettre un peu de lumière et de se dire, ok, j'ai souffert, il y a des choses en moi qui sont abîmées, mais j'ai aussi surmonté ça. J'ai aussi ces capacités-là en moi. Mais attention...
Oui, c'est clair que j'ai beaucoup de courage, ça, je suis...
Ben voilà. C'est important de vous le répéter,
après,
ça, tous les jours.
Après, je sais que, voilà, j'ai... par rapport à mon physique, bon, des fois, j'ai des compliments quand même, mais je veux dire, par rapport à mon physique, je vois que j'ai changé. Et en ce moment, je suis plus attiré par les jeunes, plus jeunes que moi. Et donc, je me dis, ça va être compliqué.
Vous nous faites une crise de la quarantaine avant l'heure, c'est ça? Non, mais c'est probablement lié aussi à ce manque de confiance dont vous parliez tout à l'heure. C'est comme si ça vous rassurait de pouvoir encore séduire des hommes plus jeunes.
Oui, voilà.
Sauf que le résultat, c'est que c'est pas très équilibré comme relation et ça n'a pas fonctionné.
Ouais, c'est vrai que...
Donc si vous avez besoin de vous rassurer, à ce moment-là, ayez des aventures avec des hommes plus jeunes, si ça peut vous faire du bien. Mais pour du sérieux, je crois que c'est pas ça dont vous avez envie.
Oui, il vaut mieux quelqu'un qui soit posé quand même.
Et il vaut surtout mieux que vous arriviez à restaurer le lien que vous avez avec vous-même d'abord, qui est un lien sain.
Et comment?
En travaillant avec un thérapeute, probablement.
D'accord.
Un petit peu, même pas forcément longtemps, mais aller faire quelques séances pour... vous reconnecter à tout ce qui est positif en vous, à tout ce que vous avez réussi à surmonter, non pas... en vous apitoyant sur vos échecs, mais en vous félicitant sur vos réussites.
D'accord.
Déjà rien que ça, tous les jours. Pour que vous ayez suffisamment d'estime pour vous, pour ne pas retomber dans une relation où vous êtes en train de quémander.
D'accord.
Dans une parce relation, on n'a pas à quémander, à supplier l'autre de vouloir rappeler, de vouloir venir. Ça doit se faire naturellement, sinon c'est pas sain.
Oui, c'est clair, c'est vrai.
Surtout au départ.
Ah, c'est vrai que je veux plus de trucs malsains parce que la relation que j'ai eue, c'était quand même malsain. J'étais vraiment conscient de ça. Mais c'était plus fort que moi. Je sais pas si c'est l'orgueil ou si c'est la fierté qui me faisait faire ça, mais je voulais absolument pas qu'il soit... Parce qu'il m'a trahi, je voulais absolument pas qu'il soit heureux et moi pas heureux.
Et est-ce que
j'avais un peu de la haine envers lui.
Oui, j'ai compris ça. Est-ce que quand on vous parle de trahison, ça vous ramène à quelque chose de l'enfance ou de l'adolescence? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous a traité comme ça déjà, avant lui?
Pas forcément. Après, c'est vrai que oui, pendant l'école, oui, j'avais pas mal de... Moi, j'étais pas très bien dans ma peau, en fait, parce qu'il y avait pas mal... Mais bon, c'était mon enfance, c'est pas... Ça m'a pas marqué, en fait.
Il y avait pas mal de quoi, vous voulez dire? D'humiliation?
Un peu, ouais.
Ou de rejet?
On va dire... Ouais, d'humiliation.
C'est peut-être de là que ça vient, cette envie de revanche, un petit peu. De dire, bah, moi, je ne laisserai pas être heureux si parce que moi, je ne vais pas l'être. Oui, ce besoin de réparer quelque chose, en fait.
D'accord.
Et je pense que ce n'est pas dans une histoire d'amour qu'il faut se réparer soi-même. Il faut se réparer avant pour se donner ensuite la chance d'avoir une histoire équilibrée.
D'accord, parce que moi, quand j'étais... pendant 3 ans, je voulais le quitter, mais je n'arrivais pas. Je le disais tout le temps, mais je ne le faisais pas. Et en fait, je voulais même trouver quelqu'un d'autre pour pouvoir le quitter, en fait.
Oui, c'est ça.
Et même, des fois, j'essayais de le tromper à la fin. Je lui avais même dit, je vais le tromper ouvertement. Mais je ne prenais même pas de plaisir.
Oui, parce que c'est pas la vraie solution, c'est pas la bonne solution, et vous le savez très bien.
Oui.
La bonne solution, c'est d'apaiser cette blessure-là chez vous, pour ne pas avoir besoin systématiquement de la soigner dans vos relations.
D'accord.
Et ce dont vous avez besoin, c'est pas d'un pansement chez l'autre,
oui.
C'est d'une vraie histoire d'amour.
Oui, c'est clair.
Et si jamais, avec ce garçon-là, ça doit être une belle histoire, laissez faire les choses, ça viendra. Mais c'est pas en les forçant, d'accord, que ça servira à quelque chose.
Oui, c'est vrai que...
Laissez passer du temps, envoyez un petit message une fois par semaine pour dire coucou, tiens, un petit rayon de soleil, je t'embrasse, bonne journée. Juste ça, léger, si vous en avez besoin, sinon même pas. Et puis surtout réfléchissez à votre façon à vous de fonctionner. Et si, d'accord, ça peut vous aider, n'hésitez pas à aller voir aussi un thérapeute pour faire quelques séances, juste pour dépasser ça et comprendre un petit peu que voilà, vous ne pouvez pas être dans la vengeance ou dans la réparation tout le temps, parce que c'est pas équilibré, c'est pas du bonheur pour vous, ça.
Oui, c'est clair. Et puis en plus, le truc que je vous avais pas dit aussi, c'est que même en ce moment, quand j'ai des histoires, parce que dans notre milieu, c'est difficile, c'est pas comme le milieu hétéro, c'est très difficile, il y a beaucoup de sexe. Et donc, même dans mes relations sexuelles, en fait, je prenais pas énormément de plaisir. Et là, avec lui, j'en ai pris, donc c'est pour ça que je me disais, il faut peut-être...
Mais oui, mais visiblement, c'est pas juste ça que vous cherchez.
Oui, non, c'est pas ça, mais je veux dire, je me disais, s'il y aurait plus, même une relation... Voilà, j'ai...
Vous avez bien compris qu'il n'est pas là. Le nœud du problème, il n'est pas là. Déjà, reprendre du plaisir, ça veut dire que vous en êtes capable et que ça peut revenir et que ça peut arriver. Être bien avec quelqu'un aussi. Mais ça doit se faire naturellement. Et ça se fera naturellement quand vous ne serez plus dans la réparation, mais dans la construction avec quelqu'un.
D'accord.
Là, vous êtes encore trop dans un schéma de réparation à chaque fois.
Oui, c'est vrai que...
Je répare ce que j'ai souffert avant. Ce qui m'a fait mal avant. Et ça, c'est pas une bonne idée. En plus, il y a de quoi partir en courant de l'autre côté si on n'a pas envie de ça. Surtout à 23 ans.
Ah, c'est vrai que... Donc... Je me suis un peu emballé vite, mais... Parce que moi, j'étais tellement sincère dans ma première relation. J'étais fidèle, j'étais... Et je me suis dit, mais je mérite pas ça, en fait. Et donc, c'est pour ça qu'après, j'ai un peu changé, mon caractère a changé.
Bon bah la prochaine fois que vous vous emballez, Fabien, vous m'appelez.
D'accord, il n'y a pas de souci.
Je vous mettrai les deux pieds sur le frein parce que ce n'est pas une bonne idée de s'emballer.
D'accord.
Prenez bien soin de vous.
En tout cas, merci beaucoup. Et c'est vrai que j'avais demandé des conseils à des amis, mais là, vos conseils sont vraiment radicaux et merci beaucoup. Ça m'aide bien.
Avec grand plaisir. Je vous embrasse, Fabien.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Bonne soirée.
Alors, suite à l'appel de Suzanne tout à l'heure qui nous racontait l'histoire de ce petit chat qu'elle a parrainé dans un refuge et qui est décédé, on a beaucoup de réactions. Et je vous invite d'ailleurs à continuer à nous appeler si vous souhaitez participer à ce débat sur les refuges et les associations pour les animaux. Vous nous appelez au 3921. C'est exactement ce qu'a fait Catherine. Bonsoir Catherine.
Oui, bonsoir. Je vous remercie énormément de me laisser prendre la parole.
Vous souhaitiez réagir à ce témoignage, oui.
Oui. Je voulais d'abord me permettre de remercier beaucoup cette dame de sa générosité qui est absolument remarquable et qui malheureusement n'est pas assez multipliée par beaucoup plus de donateurs. Et je voulais qu'elle, je pense en tous les cas, au sujet de cette association, s'ils n'ont pas réagi pour lui signaler que ce chaton était décédé, c'est qu'on est dans des situations actuellement extrêmement lourdes, deux chats dans des situations absolument dramatiques, qui ont un coût gigantesque, et que des associations, en tous les cas celle avec laquelle je suis en lien dans le Val-d'Oise, ils font des gestes qui sont absolument essentiels au niveau financier. Par exemple, les vétérinaires ont remis tous les médicaments de l'association commandés pour le mois. C'est autour de 2600 euros par mois.
On ne se rend pas compte, hein, en fait. C'est énorme.
Et je ne parle pas des interventions qui sont aussi extrêmement élevées, des sauvetages, parce que les associations sont confrontées à des chats qui sont blessés, qui sont maltraités. Et en tout cas, l'association avec laquelle je suis en lien fait énormément d'efforts. Vous voyez, tiens, j'ai un petit bavard.
Oui, comment il s'appelle, le petit bavard?
Alors, il s'appelle... Alors, celui-là, il a 10 ans. Il a été abandonné par son maître qui, sur répondeur, dit « Je suis à l'étranger, ne me laissez pas de message. »
Et comment il s'appelle, voilà, ce chat-là?
Bobby.
Bobby. Donc, bonsoir, Bobby. Donc, je lui réponds puisqu'il participe à la conversation.
T'entends-moi.
Bonsoir, Bobby.
C'est gentil de dire ça. Mais je pense qu'il entend parce qu'il a vraiment le visage vers le téléphone.
Mais j'espère bien qu'il participe sensible à cette libre antenne qui est grande ouverte aux animaux que j'adore.
Oh ben merci de tout cœur, c'est vraiment, ça me touche beaucoup. Et donc, ce que je voulais dire aussi, c'est par exemple là, actuellement, j'ai 3 chatons. C'est une fratrie de 6, mais la mère en a abandonné 3 parce qu'elle sait que je les ai caressés, mais en tous les cas, elle reste quand même très proche de moi. Et malheureusement, on n'arrive pas à la stériliser. Mais ce que je voulais dire surtout, c'est que la stérilisation est absolument essentielle parce que des études disent qu'une chatte, en 10 ans, met au monde, à travers toutes ses portées, 10 000 chats.
Non, tant que ça?
Oui.
Ah oui, effectivement, il faut stopper l'hémorragie, là.
Absolument.
Oui.
Moi, ce que je regrette, c'est que les magasins continuent à vendre les animaux. Je regrette aussi beaucoup, et je me permets cette suggestion, je pense que souvent ce sont les hommes qui freinent pour la stérilisation et je trouve ça fort regrettable parce que les gens disent qu'il faut laisser au chat mener sa vie, mais ils ne savent pas ce que vivent les chatons qui naissent.
Les conséquences, oui, bien sûr.
C'est effroyable.
Oui.
J'ai eu, il y a une quinzaine de jours, en accueil, un chaton qui tenait dans ma main, qui avait, on pense, à peu près 3 semaines, un œil crevé, l'autre œil énormément inséré, avec un abcès entre les deux yeux, un tout petit corps, d'un courage, d'une force de lutte pour pouvoir s'en sortir. On a réussi, malheureusement, sans succès définitif, on a réussi à intervenir, à l'énucléer, à lui enlever son œil. Et malheureusement, comme on n'avait pas, comme il était tellement petit, le vétérinaire n'avait pas la sonde qui lui permettait qu'on pouvait lui mettre par la bouche pour pouvoir lui permettre de respirer. Et malheureusement, il s'est arrêté de respirer.
Mmh.
Donc, il faut dire que tous ces gestes coûtent énormément.
Bien sûr, en argent et en temps et en énergie aussi.
Ah ça, et en détresse pour nous psychologiquement.
C'est ce que j'allais vous demander, parce que comment vous tenez face à toute cette détresse, toute cette souffrance?
Écoutez, hier je disais à l'association, j'ai pas pu me retenir, et j'ai sangloté carrément au-dessus de cette petite femelle qui a les yeux énormément gonflés, enflammés, le nez complètement pris par un coryza, donc ça correspond aux grippes chez l'humain, et des formes absolument dramatiques, et il n'arrive plus à manger. Et il se dégrade très vite. Donc, elle a 5 semaines. Elle tient aussi dans ma main. Et sa sœur, c'est la même chose. Elle est dans un état un peu moins grave. Et voilà, donc ce sont des détresses qui sont extrêmement lourdes aussi pour nous psychologiquement.
C'est pour ça que j'ai tenté d'apaiser un peu Suzanne, parce que c'est normal qu'elle soit déçue et en colère, mais elle a compris aussi assez rapidement que, ça, voilà, comme vous dites, il y a tellement d'urgence, tellement de situations catastrophiques qu'on peut comprendre que quelqu'un n'ait pas pris le temps de donner des nouvelles.
Absolument.
Comme c'était prévu, quoi. Même si, bien sûr, on peut s'attendre, quand on donne des sous tous les mois, d'avoir une petite photo et des nouvelles, mais je pense qu'elle a très très bien compris aussi cette détresse-là de l'autre côté.
Alors, notre association, elle envoie systématiquement des journaux mensuels. Elle remercie globalement l'ensemble des donateurs. Elle nous donne des photos des chats qui ont été adoptés, pour certains d'autres qui ont besoin d'être adoptés. Et puis, évidemment, on peut se référer sur les sites. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand on propose aux gens de parrainer un animal, c'est souvent aussi une manière de permettre aussi aux autres animaux de bénéficier de cette aide.
Bien sûr.
Et c'est ça l'objectif, et j'espère qu'elle continuera à donner parce que c'est absolument essentiel.
Elle a dit qu'elle le ferait, bien sûr, hein, qu'elle a eu un petit coup de colère et tristesse, mais qu'évidemment elle continuera. Puis je pense qu'elle en fait plus aussi. Elle leur amène des croquettes. Elle aide.
Oui, c'est ça, effectivement.
Elle s'investit aussi, quoi.
Et c'est assez exceptionnel parce que la somme est quand même assez conséquente. 20 euros, si tout le monde faisait ça, ça changerait complètement la capacité de prise en charge de tous ces animaux qui sont maltraités.
Combien vous donnent les gens en moyenne?
Moi, combien donnent les gens exactement? Moi, je sais pas parce que je ne sers pas l'association. Moi, personnellement, je donne 10 euros par mois. Mais sachant que je dépense des croquettes, je suis pas loin d'être à découvert, pour tout vous dire. Donc j'ai 74 ans, moi je suis en retraite, j'ai des problèmes de santé très graves et malgré ça je vais sortir là en vous quittant, je vais aller donner à manger au chat et donner les antibiotiques à la mère qui a les autres 3 chatons parce que si on lui donne les antibiotiques à travers son lait, elle pourra protéger les autres chatons qu'elle nous a cachés malheureusement. Mais voilà, je crois qu'il faut absolument retenir que cette générosité est absolument essentielle. Et je me souviens d'une personne qui donnait aussi aux chats dehors, qui faisait aussi une qualité de prise en charge énorme. Elle disait que beaucoup de gens aiment les animaux, et souvent leur animal, et ne s'impliquent pas comme cette dame s'est impliquée. C'est pour ça que j'ai envie vraiment de la remercier de tout cœur et qu'elle soit rassurée. Son argent est utilisé vraiment au profit des animaux et au profit de ce chat qu'elle a parrainé. Ce chat était aussi... en charge avec une qualité de soins qui malheureusement n'a pas pu lui exclure une mort, mais en tous les cas il a été entouré, j'en suis absolument certaine.
Moi, j'en suis persuadée aussi. Catherine, comment est-ce que vous en êtes arrivée là? Est-ce que vous étiez une petite fille qui a toujours eu des animaux à la maison ou est-ce que c'est quelque chose, c'était une rencontre un jour par hasard?
Dans ma famille, on a toujours beaucoup aimé les animaux. Moi, je suis infirmière de formation parce que je vous avais parlé il y a très peu de temps au sujet de la mort et de l'accompagnement des malades en fin de vie. Mais c'est surtout parce que, d'abord, j'avais la naïveté, mais je pense que c'était pour me consoler, de me dire que quand il faisait froid, quand il pleuvait, les quelques chats qui étaient dehors devaient se réunir, se regrouper, se tenir chaud. C'était ma naïveté. Et ce sont, il y a 30 ans, que je m'occupe des animaux. Et des voisins me disent, oh, on est bien ennuyés, on donne à manger aux chats dehors, et puis on s'en va, on déménage, et qui va prendre notre relais? Et voilà, donc j'ai commencé comme ça, et malheureusement, j'avais... insisté dans ma tête en disant que je me localiserais uniquement devant chez moi pour donner à manger aux chats. Et notre commune s'est engagée pour le bien-être animal. Et finalement, dans une commune qui a 40 000 habitants, on n'est que 3 sur le terrain.
Ah oui.
C'est un travail absolument gigantesque.
C'est ce que j'allais
dire. Et ma référente, elle est directrice d'école. Elle est admirable dans sa gestion et la prise en charge des enfants. Et tout à l'heure, donc, elle m'expliquait la situation des chatons qu'elle a aussi, elle, de son côté, à prendre en charge, et elle se lève à 4 heures du matin carrément pour s'en occuper, pour faire les soins avant d'aller travailler. Et elle a formé ses enfants qui ont, la petite doit avoir maintenant 9 ans, et son fils a 3 ans de moins, elle les forme justement, elle a un mari qui aussi l'aide beaucoup, elle les forme pour pouvoir prendre en charge aussi les chats. Mais c'est ce que porter les assiettes, donner les médicaments, enfin voilà, des petits gestes. En tout cas, dans nos communes, il y a des situations dramatiques. Les gens les écrasent comme rien, les chats ils s'en fichent, ils ralentissent pas du tout. Il y a des enfants qui jouent avec, il y en a qui les aident contre les murs, enfin.
Et j'imagine que dans ce travail au quotidien, ce qui vous fait tenir, c'est aussi tout l'amour qui vous donne ces chats-là.
Non, pas forcément.
Alors qu'est-ce qui vous fait tenir?
J'éprouve le besoin de leur apporter du bonheur. J'ai un grand souci d'aider celui qui est en difficulté. Donc j'aide aussi autour de moi les gens sur le plan social, en fonction de mon expérience professionnelle. Et puis et j'aime pas la souffrance autour de moi. Voilà.
D'accord, donc
j'aime que les gens soient heureux.
Ce souci d'aider, de cette générosité d'aider.
Oui, c'est vraiment et ça m'est très dur parce que j'ai des problèmes de santé très graves, mais bon, tant que je resterai debout, j'essaierai de faire face.
Est-ce que vous avez en tête un souvenir d'une très belle adoption, d'une histoire vraiment très particulière que vous avez vécue avec ce refuge?
Ben déjà, moi-même, j'en ai adopté une trentaine.
Non.
Si, si, je vous assure. Bon, bien sûr, beaucoup sont déjà décédés. Et là, j'en ai une dizaine que je viens de leur donner encore leur passé parce que j'étais toujours en train de m'occuper des chatons, donc c'est toujours un petit peu gênant. Ils ont des croquettes à volonté, bien sûr, mais ils aiment bien avoir de la pâtée aussi. Et alors dehors, je vous dis pas le nombre de chats dont je me suis occupée, parce qu'il faut faire du trappage aussi, ça prend des heures pour pouvoir attraper un chat.
Du trappage avec les trappes.
Le trappage.
Oui, bien sûr.
Oui, parce que d'abord, il faut les nourrir, de toute façon, ils ont besoin d'être nourris. Il faut les nourrir, et quand ils sont en confiance, et quand on arrive à les faire rentrer dans la trappe, on les fait stériliser, tatouer. Mmh. S'ils ont des soins, on les prend en charge au niveau des soins. S'ils sont adoptables, évidemment, c'est notre rêve le plus sincère. Et s'ils sont sauvages, on est obligé de les relâcher, mais on assure le suivi. Et s'ils sont malades dehors, et on les reprend, on essaie de les trapper à nouveau, ce qui n'est pas toujours facile, ou on leur donne des traitements sur place. Comme ils nous connaissent, ils nous font confiance, ils reviennent vers nous, et on peut, dans des boulettes de pâté, leur donner
les soigner. Alors, il y a plusieurs messages qui sont arrivés. Il y a Jean-Philippe qui vous dit « Vive les matous, on les aime et force à ceux qui luttent pour s'occuper d'eux ».
Merci énormément, vraiment.
Quelqu'un qui n'a pas signé, qui met « J'ai 5 chats qui dorment avec moi ben, ». Elle a de la chance, elle doit bien dormir.
Ah ben moi aussi, d'ailleurs, je suis entourée de mes chats.
Et il y a Coco qui pose une question importante. Et justement, j'allais évidemment vous demander le nom de votre association, parce qu'elle demande « Comment choisir une assoce, où la trouver pour faire des dons ?» Effectivement, quand on ne sait pas très bien où se diriger, comment est-ce qu'on peut faire?
Alors, ce n'est pas parce que je suis en lien avec cette association, mais cette association, le vétérinaire m'avait confié que c'est sûrement celle qui est la plus droite et la plus honnête.
Oui.
Et franchement, pour moi qui suis en lien avec eux depuis plus de 10 ans, je confirme. Donc, cette association, c'est l'école du chat libre du Parisis, comme Paris, à l'extrémité IF.
L'école du chat libre de Parisis.
Oui, et c'est à Montigny-les-Cormeilles, c'est dans le 95.
À Montigny, dans le 95, d'accord. L'école des chats libres à Montigny.
Ils sont sur Internet.
D'accord. Et vous êtes garant de leur sérieux?
Ah, c'est là que je meurs un instant si je vous dis le contraire. Ah, je vous assure.
Non, je vous crois sur parole. Bien évidemment, quand il y a des gens comme vous dans des associations comme ça, on est tranquille, on sait que c'est du sérieux derrière.
On n'est pas assez nombreux, c'est ça le problème.
Oui. C'est pour ça que c'était important, et tout à l'heure j'ai aussi remercié Suzanne et insisté pour...
Oui, pour ça m'a touchée, j'étais contente que vous lui disiez tout ça, oui.
Qu'elle lâche pas l'affaire, parce que c'est vrai que c'est dommage qu'il y a tellement peu de gens qui aident et il y a tellement de besoins.
Mais les besoins sont énormes.
Alors on a derrière vous, si vous souhaitez rester en ligne, d'ailleurs pourquoi pas, Catherine, on a Jean-Pierre qui appelle et qui lui s'occupe plutôt des chevaux. Bonsoir à vous Jean-Pierre.
Ah. Oui, bonsoir.
Merci de votre appel.
Il n'y a pas de souci. J'aurais souhaité s'il y a la possibilité de reprendre une association en main.
C'est-à-dire, quel est votre parcours à vous?
Moi, je suis à la retraite.
Mm-hmm.
Je suis un ancien gendarme.
Oui.
Et j'ai pris ma retraite. Et j'ai travaillé longtemps sur les chevaux de l'Éden à Nîmes.
Je ne vous entends pas très bien, Jean-Pierre. Est-ce qu'il y a un haut-parleur ou une oreillette pour le téléphone?
Non, attendez, j'enlève le micro, ça ira mieux, ça dit 2 secondes.
Oui, ça résonne un peu.
Ça ira mieux, là.
Ah, ben merci beaucoup, c'est bien plus agréable comme ça.
Oui, j'ai travaillé donc dans les Chevaux de l'Éden à Nîmes, et c'est une association qui travaille avec le procureur.
Oui.
Et malheureusement, quand les gens ils ont fait des bêtises, ben on enlève les chevaux.
C'est-à-dire?
Ça veut dire maltraitance, voilà, j'ai vu beaucoup de choses dans le monde, dans le monde du cheval.
C'est vrai qu'on parlait avec Catherine et avec d'autres personnes des chats ou des chiens, on parle moins des chevaux. Dans quel contexte les chevaux sont maltraités, par exemple?
Ça veut dire, les gens animent, par exemple, animent, ils prennent beaucoup de chevaux, ils achètent je ne sais pas comment, bon bref. Et puis, voilà, on prend des vacances, on va faire un tour à cheval. Et quand c'était pio... Quand c'est fini, tout ça, on laisse les chevaux dans les prés pour n'importe quoi. Et Voilà, donc il y a du barbelé, les chevaux s'énervent, voilà. Mmh. Et ils sont maltraités, il n'y a pas de sel, il n'y a pas d'eau. Voilà, c'est...
Et comment est-ce qu'on
fait? Moi, j'ai vu des chevaux dans un état, mais j'avais les larmes aux yeux, j'avais la colère. C'était horrible.
Oui, je comprends tout à fait. Comment est-ce qu'on fait quand on a sauvé un cheval ensuite? Est-ce qu'on peut le replacer quelque part ou comment est-ce qu'on gère ça?
Alors, on peut le replacer. Donc, l'association suit ses chevaux. Ça veut dire tous les 8 mois, on prend la voiture, on va les suivre, on va demander comment ça va se passer avant de l'installer et voir qu'est-ce qu'ils ont compris, s'ils ont du sel, s'il y a de l'eau automatiquement, si vous allez le brosser, si vous avez un contact régulièrement avec lui. C'est pas d'acheter un cheval, parce que tout le monde peut acheter un cheval. Mmh. Ça, c'est n'importe qui peut acheter un cheval. C'est pas cher, un cheval. C'est après qu'il va se passer quelque chose.
Et puis, c'est un vrai travail. C'est un vrai travail, s'occuper d'un cheval.
Ben voilà, moi, j'ai passé l'examen de vétérinaire. J'ai passé aussi le Marjal Ferrand. J'ai vu des sabots. Mais mon Dieu, mais c'est pas possible qu'un humain peut faire autant de mal sur un animal. C'est horrible.
Ouais. Et donc, Jean-Pierre, qu'est-ce que vous souhaitiez dire ce soir-là?
Moi, je souhaiterais que reprendre une association ou déclarer... Enfin, comment vous expliquer? Je voudrais... Enfin, j'aurais souhaité, s'il y a possibilité de faire une association ou comment vous dire, reprendre une association qui est dans les difficultés.
Et pour faire quoi? C'est-à-dire que vous auriez les moyens d'aider une association?
Oui, j'aurais des moyens. Je suis à la retraite et je m'ennuie. Bon, j'ai un cheval. Je suis au Valdec, à Mulhouse, mais ça se passe très très mal. Parce que là-bas, c'est moi-je. Voilà, c'est...
Bah écoutez, voilà, c'est... Catherine, vous êtes toujours en ligne?
Oui.
Jean-Pierre, est-ce que je peux me permettre de vous présenter Catherine?
Oui.
Catherine, Jean-Pierre, Catherine?
Oui, ça me touche beaucoup d'entendre aussi ce dévouement pour les chevaux, parce que c'est encore beaucoup plus difficile.
Non, enfin moi, comment vous dire, moi je le fais moi-même, hein, le Marjal Ferrand, c'est moi qui fais les vaccins, voilà.
Oui, non, mais c'est extraordinaire, mais c'est quand même beaucoup plus difficile pour pouvoir... Faire reprendre un cheval dans une autre organisation, je ne sais pas, ça me paraît beaucoup plus compliqué.
Non. C'est, comment vous expliquez ça? C'est un peu plus facile pour moi. En tout cas, pour moi...
Ça me touche de voir à quel point vous êtes dévoué.
Moi, je suis prêt de changer de région. Hein.
En tous les cas, de ce que je peux savoir de l'association, c'est qu'il y a, donc vous soyez seul, mais il faut quelqu'un qui s'occupe du secrétariat et de la trésorerie. Il y a toute une gestion derrière aussi.
Là, j'aurais des gens. Pour ça, j'aurais des gens.
Je pense que ça serait intéressant, hors antenne bien sûr, tout à l'heure, que vous poursuivez cette conversation, parce que ça peut être un contact enrichissant pour les uns et pour les autres. Vous ne pensez pas, Catherine?
Moi, j'aurais pas d'autres éléments à vous donner. J'ai pas cette expérience au niveau de la gestion. Par contre, on peut garder le contact et je peux demander éventuellement à ma référente qu'elle puisse se donner des informations parce qu'elle maîtrise tout ça. Mais je parle bien sûr au niveau du chat.
Oui, non, mais là-dessus, je pense qu'on pourra voir dehors de l'antenne se voir si vous le souhaitez et on pourra faire un...
Moi, je suis dans le Val d'Oise, hein. Vous êtes à Mulhouse.
Oui, mais j'entends Jean-Pierre, oui. ça s'entend un petit peu, vous avez un accent charmant, Jean-Pierre.
Oui, tout à fait, oui.
Mais vous
j'aime
étiez...
beaucoup cette région.
Vous étiez prêt à bouger aussi, vous disiez éventuellement?
Oui, moi je suis prêt à bouger. Hein.
Et vous-même, Jean-Pierre, combien d'animaux vous avez?
Moi, j'ai qu'un cheval.
C'est déjà bien?
Oui. J'étais dans la brigade canine, en la gendarmerie. Donc, on éduquait des chiens pour le pistage, pour la drogue, la fausse monnaie, voilà, et recherche de personnes.
Et d'ailleurs, dans ces cas-là, le chien est à vous, non, ou pas?
Malheureusement, je ne l'ai pas pu garder. J'ai eu les larmes aux yeux, j'ai eu la colère, j'ai discuté avec le procureur, j'ai tout essayé. Non, on a beaucoup besoin de chiens.
Ah oui, ils n'ont pas pu vous le laisser.
Non, malheureusement.
Et vous le revoyez encore? Vous l'avez revu après?
Non, je suis allé le voir aujourd'hui. Ah. Bon, c'est des nouveaux, hein. Alors, vous faites quoi? Vous êtes qui? Il fallait que je me présente, mais
ah, oui,
voilà.
Ah, oui.
Ah, voilà, bon.
Et votre cheval, il a quel âge?
Celui-là, il a, allez, 20 ans. Je l'ai acheté à l'association des chevaux de l'Éden, à Nîmes.
Mm-hmm.
Et, vous... Et c'est très bien passé. Écoutez, franchement, des très bonnes nouvelles. J'en vois toujours des photos. Ils me demandent toujours des contacts. Est-ce que tu pourrais revenir? Parce que tu nous manques. Enfin, j'avais un très bon contact, mais malheureusement, à cause de mon travail, j'ai quitté.
Et comment il s'appelle ce cheval-là?
Galurin.
Galurin. Je vous dis ça à tous les deux, Catherine et Jean-Pierre, parce qu'il y a quelqu'un qui a envoyé un message qui dit qu'elle a eu beaucoup de chats dans sa vie. Et elle me fait une liste de prénoms, et j'aime bien partager les prénoms des animaux quelquefois, c'est assez mignon, donc je vous en donne quelques-uns. Elle les a appelés Trassou, Caramel, Myrtille, Grisette, Praline, tiens, j'ai eu un praline moi il y a longtemps, Mirabelle, Poussy, Coquine, qu'est-ce qu'il y a encore, Calou, Fripouille, Caline, Duchesse, Mistigris, et il y en a encore plein, Tigrou, Grisou, Maxou, etc., etc., etc.
D'accord.
J'aime bien les prénoms des animaux. Ça dit souvent des choses du propriétaire.
Galurin, ça veut dire chapeau.
Ça veut dire chapeau. Et,
voilà.
si vous changez de région, Jean-Pierre, vous allez l'amener avec vous, Galurin?
Oui. Je ne peux pas le dire. Non, c'est impossible. Attendez.
Ah, on est bien d'accord.
Non. Oui. Vous inquiétez pas là-dessus. Je fais beaucoup de balades. Qu'est-ce que je fais beaucoup? Ah, j'ai éduqué beaucoup la police montée au Valdec. Bon, malheureusement, cette année, ils ont dit qu'ils veulent arrêter. Alors, ils ont nous revendu nouveau les chevaux au centre épique au Valdec. J'ai été en colère, je vous prouve. Oh là là. Je me suis dit, putain, que les humains, ils sont aussi. Alors, quand ça arrange, on achète. Si ça va plus, on dégage.
Bah, c'est ce que vous disiez, Catherine, tout à l'heure, des gens qui se gênent même pas pour les jeter par-dessus la palissade, quoi.
Ça, c'est une horreur.
C'est horreur, quoi. Non. Je vois dans le monde du cheval, je vois beaucoup dans le j'ai travaillé à la SPA en Alsace, là, à la SPA de Mulhouse. Mon Dieu. J'étais enquêteur, mais j'ai arrêté parce que j'avais les larmes aux yeux, la colère. J'ai dit qu'un humain peut faire ça, c'est horrible.
Et on appelle ça des êtres humains, oui.
Alors, si je peux me permettre de vous parler d'une situation qui est absolument dramatique dans notre commune, mais qui existe malheureusement sûrement ailleurs aussi. Il y a très régulièrement des chiens qui sont enfermés dans les coffres de voitures. Et on a eu une situation, il y a 3 ans, le chien était dans une cage, dans le coffre. Et quand il sortait le chien quand même pour lui faire lui donner à manger et à boire, parce que c'est pas forcément toujours le cas, il étirait ses pattes pour pouvoir s'en sortir. Et on a réussi on a eu un lien, malheureusement, ces personnes sont parties dans le centre de la France. Deux personnes qui se sont dévouées le soir même et qui sont venues carrément pour ouvrir le coffre du véhicule dans la nuit et ont sorti le chien du véhicule et l'ont mis tout de suite en accueil. C'était une chienne, un berger allemand de 10 ans.
Ça, je n'avais jamais entendu. J'ai entendu aussi malheureusement des histoires de chiens qui sont attachés, j'en ai vu moi-même, attachés en laisse sur les balcons. En plein soleil,
ah oui,
pendant
ça
la canicule.
Je l'ai vu, ça.
On en voit
en
malheureusement.
Face de chez moi.
C'est monstrueux.
Vous savez, hier, je ne vous cache pas, j'étais dans la gendarmerie. J'étais enquêteur à la SPA de Mulhouse. Malheureusement, il y avait un truc. Écoutez, même... Bon, le procureur me connaissait. Hein, et j'avais expliqué comme quoi j'étais enquêteur. Il m'a dit, t'as aucun droit. J'ai dit, je le sais. Et un jour... La directrice de la SPA de Mulhouse m'avait contacté au milieu de la nuit. Jean-Pierre, viens vite, dépêche-toi, urgent. Je dis, oh, calme, qu'est-ce qui se passe? Dis-moi la chose qu'il faut. Je suis allé, j'ai pris aller au rendez-vous et je vous assure, j'ai vu à la gare du Nord, à Mulhouse, des vaches, des chevaux s'écraser, les yeux arrachés, les pattes cassées. Et le gars, il était tout simplement à l'hôtel. J'ai convoqué le procureur, j'ai demandé de venir tout de suite, les pompiers de Mulhouse, d'urgence, donc nous, les gens de la SPA, je vous assure, j'avais des larmes, une colère, j'ai vu la personne en face de moi, j'ai poussé tout le monde pour lui foutre mon poing dans la tronche. J'ai dit, comment on peut faire ça? comment on peut faire? Et lui, il était à l'hôtel. Et alors, il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas de foin. Ça se couchait dans la merde. On t'a écouté. Oh, nom de pétard. Ça, on appelle ça une... Bon, après, j'ai eu un avertissement, mais je m'en fous de ça.
Et oui. Et une fois de plus, on appelle ça les êtres humains.
Si je peux me permettre...
C'est un grand mot, hein.
Oui, Catherine.
Oui, hier, j'ai eu un appel d'une personne qui était aussi dans une STA. On se connaît depuis très peu de temps. Elle m'appelait justement pour me demander un soutien. Elle prenait des photos d'un véhicule qui avait le pare-brise complètement abîmé, un véhicule rempli de tout ce qu'on peut imaginer. Et elle entendait un chien aboyer. Donc elle prend les photos pour le signaler à la police municipale ou nationale. Et le propriétaire finalement se trouvait là. Il lui dit, qu'est-ce que vous faites? J'ai déposé plainte contre vous. Elle dit, j'entends un chien dans un coffre, c'est absolument inadmissible. Et il répond, ça fait 40 ans que je fais ça pour surveiller ce que j'ai comme matériel dans mon véhicule.
Non.
Oui, oui.
Après, il y a les odeurs, après. Oh là là, après, il y a les odeurs et tout. Mais la vie ne fait rien.
Ben non, il n'y a pas d'odeur, hein, quand la bête est dans le coffre. C'est elle qui est dans les odeurs et tout ça, mais à l'extérieur, il n'y a pas d'odeur. Hein.
Bon, quand même.
Ah, je vous assure que la voiture, je vous assure que la voiture que j'ai signalée il y a en 2015, qui m'a été signalée et que j'ai signalée, j'ai fait le relais, il n'y avait pas du tout d'odeur.
Tiens, voilà une question intéressante, Catherine et Jean-Pierre. Qu'est-ce qu'on fait quand pour signaler un souci? Par exemple, moi, ça m'est arrivé de me retrouver, par exemple, dans la rue et de voir un chien attaché à une laisse sur un tout petit balcon. Et c'est vrai qu'on ne sait pas forcément qui appeler. Vers qui il faut se tourner,
en principe, c'est la police municipale. Elle demande d'avoir précisément l'adresse, l'étage. Et à ce moment-là, c'est elle qui fait les places.
C'est la police directement.
Oui, la police municipale ou la mairie. Ou la mairie.
Oui, la police municipale qui dépend de la mairie.
Oui,
donc,
c'est la mairie. Oui.
D'accord.
Mais il y en a qui ne bougent pas. Hein.
Bah, c'est ça, est-ce que c'est vraiment efficace, quoi.
Exactement.
Il y en a qui ne bougent pas. Alors, moi, j'ai toujours gardé. Oui, oui. Eh ben, je vais vous dire, moi, j'ai toujours gardé ma carte professionnelle.
Ça, le procureur m'avait demandé.
Oui, moi, j'ai un avantage parce que je ne peux plus tolérer ça. Vous savez, à Nîmes et en Alsace, c'est horrible. Hein. Je vois des choses. Moi, j'ai ceux dans le centre épique. Je vois. Écoutez, franchement, dans les concours, là. C'est horrible, horrible. Parce que le cheval, il a touché la barre. Sur la barre, on met du barbelé. Oh putain, des éperons électriques. Oh putain. Et le juge qui ne dit rien. Ça me fout en pétard.
Alors j'ai l'impression qu'on en parle moins des chevaux, comme si c'était encore un peu tabou.
Oui, c'est vrai.
On entend moins parler de la maltraitance sur les chevaux que sur les chiens et les chats.
Ah ben, vous tapez sur Internet, vous allez sur le chevaux de l'Éden. Ah ben, vous allez voir des chevaux moitié aveugles et... Oh non,
Et par contre, les fondations 30 millions d'amis, Brigitte Bardot le signale dans leur revue, elle le signale énormément.
Oui, oui. Les derniers temps, ils ne font plus. Hein. C'est toujours les mêmes photos.
En tout cas,
Non, c'est pas les mêmes photos.
Non.
Non, je vous assure. Ah non, pas du tout, parce que la fondation m'envoie régulièrement tous les mois Non, malheureusement. Ça serait mieux que ce soit les mêmes photos, parce qu'au moins, il n'y aurait pas d'autres.
Il n'y aurait pas de nouveau. En tout cas, je vous admire tous les deux, parce que qu'est-ce que c'est difficile d'affronter ça.
Merci aussi beaucoup de votre part, de nous écouter, de nous entendre et partager, parce que grâce à vous, au moins, on peut faire passer un message.
J'en suis ravie. À ce tout petit niveau de pouvoir vous aider, j'aimerais tellement en faire
plus.
C'est
pas un petit niveau, c'est un niveau énorme.
Bah écoutez,
je m'en doute. Si il y a quelqu'un qui entend que je peux reprendre une association en main, n'hésitez à avoir mon numéro de téléphone.
Alors, quel âge avez-vous?
Moi, j'ai 42 ans.
Oui, parce que vous me parliez de retraite, mais vous êtes un jeune retraité, alors Jean-Pierre?
Oui, mais j'ai commencé, comment vous expliquer, j'ai commencé très tôt à travailler. Alors que là, j'ai pas connu mes parents. Donc, je me suis retourné vers les animaux.
D'accord. Ce que je veux dire, c'est que, 42 ans, vous avez encore toute l'énergie nécessaire pour affronter ce combat-là. Quoi.
Voilà.
Oui, parce que moi, j'ai 74 ans, j'aimerais bien en avoir 42.
non, moi, je suis toujours de coke. non, s'il y a moyen de reprendre une association, n'hésitez pas à m'appeler, changer de région, je suis prêt.
Ben,
moi, personnellement, je ne peux pas intervenir dans ce sens parce que je n'ai pas de connaissance, je n'ai pas de lien dans ce domaine. Je ne pourrais pas intervenir.
Ah là, il y a un message qui vient d'arriver pour vous, Jean-Pierre. C'est Clotilde qui parle d'une association au pré de mon cheval, avec un jeu de mots pré comme un pré.
Oui.
Et elle laisse le numéro de téléphone d'une certaine Carole, qui est dans le 67. Alors, quel est le département 67, tiens ? Est-ce que quelqu'un sait ?
Ah, c'est dans le Bas-Rhin, ça. Ah, il y a Bas-Rhin et Haut-Rhin.
Tout le monde me répond même dans le Bas-Rhin, d'accord. Donc, en tout cas, Clotilde nous laisse un numéro de téléphone pour vous, Jean-Pierre. Oui. Donc, on va vous le transmettre et je pense qu'il y aura énormément d'appels aussi dans
génial.
Ce sens.
Oui, c'est très, très bien.
Si on pouvait créer une grande chaîne de solidarité.
Formidable. Ça, c'est formidable. Mais je suis prêt de, comment dire, de changer de région, dormir sur place, je suis prêt à plein de choses.
Ben je pense que cette bonne volonté-là va certainement avoir écho chez plein de gens qui vont nous appeler pour entrer en contact avec vous, Jean-Pierre.
Oui. Ah. Moi, comme d'habitude, je sais faire le ferrage, je sais faire les vaccins, il n'y a pas de souci.
C'est bien, c'est une grosse expérience et beaucoup de souhaits de bien faire.
Et bien j'ai conduit des chevaux, malheureusement. J'ai décousu des chevaux, hein. Je suis dans le barbelé. Je crois qu'on n'avait même plus le droit de les vendre, les barbelés, mais malheureusement, c'est horrible. Alors, j'en ai décousu, hein. Et j'ai passé des nuits blanches, hein, le gant aussi. Hein.
En tout cas, je vous tire mon chapeau à tous les deux, Catherine et Jean-Pierre. Un grand merci pour ce que vous faites pour tous ces animaux-là.
Oui.
Et c'est nous qui vous remercions vraiment de tout cœur et je vous assure, c'est extraordinaire de nous donner cette opportunité de pouvoir en parler.
Bah écoutez, moi je vous remercie à tous les deux
De bienveillance aussi en vous et c'est tellement encourageant, ça fait du bien.
C'est vrai.
C'est gentil. Et je vous redonne quelques prénoms au passage parce que j'en ai reçu d'autres. Il y a Isatis, Calypso, oui. Stella,
oui.
Poupette, on l'avait déjà eu. Je crois que Poupette, il y en a pas mal des Poupettes.
Hein. Les Poupettes, d'accord.
Et il y a des messages, attendez alors Catherine, parce que pendant que j'étais en train de parler avec vous, il y a plusieurs messages qui sont arrivés.
Oula.
Et non, qui sont bien, Nadège qui dit merci de laisser mon numéro à cette dame du Val d'Oise pour aider les chats. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser tous les deux, je vais vous laisser avec Oscar et il va vous transmettre les numéros des uns des autres pour créer cette belle chaîne de solidarité, d'accord ?
D'accord, merci vraiment beaucoup.
Et je vous embrasse tous les deux très fort.
Je vous remercie beaucoup, c'est vraiment intéressante.
J'en suis ravie. Ne quittez surtout pas.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Merci.
Au revoir.
Sabine Marin vous écoute sur Europe 1.
Et avant de vous quitter, j'aimerais partager avec vous ce SMS de Jean-Philippe parce qu'il m'a beaucoup fait rire. Jean-Philippe m'écrit « J'appelle mon chat Général Sterling Price, ça vous pose un chat ?» Et il en est très fier. Merci Jean-Philippe pour ce souriant SMS. Notre émission se termine pour aujourd'hui. Demain soir, c'est Olivier Delacroix que vous retrouverez à partir de 22h30. Quant à moi, je vous donne rendez-vous vendredi prochain avec le même plaisir et je vous quitte avec cette citation. Le meilleur remède à la solitude, c'est de s'aimer suffisamment pour ne jamais s'ennuyer en sa propre compagnie. Passez une bonne semaine et à vendredi. Il est 1h du matin sur Europe 1. Et je vous laisse en compagnie des programmes de la nuit.